Si un homme a beaucoup plus qu'il ne faut, c'est que d'autres manquent de l'essentiel. Lev Nikolaïevitch Tolstoï. Léon Tolstoï, sa vie, son œuvre, son engagement dans la Russie du 19e siècle. Une émission de Claude Ferret.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission. Bonjour Claude Ferré.
Bonjour.
La vie et l'œuvre de Léon Tolstoï, un passionné qui nous en parle. Et déjà, bon, pour les auditeurs, beaucoup de monde connaît Claude. La semaine dernière, on était parti à Yasnaya Polyana. Tu nous avais fait visiter cette propriété. On a parlé ensuite de la femme de Léon qui s'appelait Sofia Andrievna. Et aujourd'hui, le maître mot, encore un petit peu. Encore un petit peu.
Nous allons continuer alors. Hein. Donc, nous sommes dans l'avant-dernière émission, la 9e, sur la vie et l'œuvre de Tolstoï. Et nous arrivons dans cette fin du 19e siècle en Russie. Tolstoï est au fait de sa renommée, de sa gloire. Il est mondialement connu. Des gens de toutes passes passent le voir dans sa Russie reculée. On veut rencontrer, tu vois, Manu, le grand écrivain, le sage de Yasnaya Polyana. Les gens se bousculent, sa femme est complètement, parfois, très embêtée d'accueillir tout ce monde. Et une fois, il y a une quinzaine d'Américains qui sont arrivés là, hein, les femmes, des hommes, voire le sage, quoi. Mais... Donc, il y a beaucoup de monde qui passe chez lui le voir. Et malgré que Tolstoï, comme on l'a dit, ne voulait plus écrire de romans depuis 1881 pour se consacrer qu'à ses œuvres religieuses et socio-humanistes, il revient dans cette fin 19e, vers 1890, aux alentours. Il revient malgré lui, si on peut dire, à l'écriture de romans, de nouvelles, qui sont évidemment sublimes. En fait, qu'est-ce qui se passe pour Tolstoï ? Pour exprimer une certaine morale qu'il a de la vie, et pour que ça corresponde à vraiment au plus près de toute sa réflexion de l'existence, il ne peut faire autrement que de parler à travers ses nouvelles, ses romans. Et malgré lui, bah, il va se remettre à écrire de véritables petits chefs-d'œuvre. Et on va en parler un petit peu de cela, bien que je l'ai déjà évoqué. Mais je pense que, tu vois, Manu, Tolstoï a besoin de redéployer son art pour ancrer son existence dans le vrai. Car il disait en 1890 dans son journal, très intéressant de voir ce qu'il disait, « Je pense toujours que je ne sens pas encore, sans son art, sans ses convictions, ses convictions resteraient presque fragiles. » J'ai envie de dire, il a besoin de déployer son génie pour sentir la vie vibrer en lui. Bon, l'intellect, c'est bien, il sait faire, il a écrit plein de livres sur la religion, sur le social, sur plein de choses. Donc, il y a un livre qu'il aime beaucoup, un petit roman que j'encourage les gens à lire, qui s'appelle « Hadji Mourad », c'est son véritable bijou. Il va le réécrire 13 fois, ce roman, et... Il va l'écrire presque en cachette, se culpabilise presque d'écrire Hadji Mourad. C'est ça un peu son péché mignon. Et on voit bien qu'avec Tolstoï, la flamme de l'artiste n'est jamais vraiment éteinte.
Mais alors pourquoi il se cache ? Il se cache de sa femme ?
Oui, si tu veux, il ne se cache pas vraiment. Mais si tu veux, il se sent en contradiction avec lui-même, parce que il a refusé d'écrire des romans. Il a dit, comme nous l'avons dit dans l'avant-dernière émission, que c'est pour les riches, que c'est pour les feignants, la littérature, que tout ça c'est zéro. Il a renié toutes ces grandes œuvres.
Parce que là, il a quel âge à peu près ?
Ah ben là, il a 70 ans.
D'accord.
Donc, il va continuer à Haji Mourad, qui sera édité qu'après sa mort. C'est un roman qu'il a. Haji Mourad, c'est un héros du Caucase qui a tenu tête aux Russes, et c'est absolument magnifique. Alors, la mort d'Ivan Illich, il écrit dans ces moments-là, on va pas la décrire, on en parle depuis toute longueur des émissions. La sonate à Kreutzer, ça on l'a évoqué aussi. Il y en a un aussi, Maître et serviteur, une petite nouvelle qui est absolument magnifique, que j'ai lue un soir dans ma ferme, près de mon poêle, j'avais la grippe, et je me croyais vraiment dans la neige avec les traîneaux. C'est absolument magnifique, Maître et serviteur. C'est une petite nouvelle de 100 pages, je ne vous en dis pas plus, et ceux qui liront ne seront pas déçus de découvrir cela. Alors, le père Serge aussi, bien sûr, c'est l'itinéraire de salut d'un grand sensuel qu'est Tolstoï, évidemment, dont la suprême tentation est la sainteté. Mais il dit qu'il va vaincre la luxure que pour tomber dans l'orgueil. Donc voilà, c'est le père Serge et qui sont partie des œuvres finales de Tolstoï qui sont absolument intéressantes, quoi. J'ai envie de dire quelque part, Manu, c'est que même si Tolstoï, bon, je l'ai déjà dit, mais redisons-le, je trouve que Tolstoï, dans toutes ses œuvres littéraires, en réalité, a dit tout, quoi. Il a voulu faire du spirituel, et c'est très bien, j'en suis très touché, et puis je me reconnais beaucoup, du mystique, il a voulu faire du social, et c'est bien ce qu'il a fait de l'humanisme, c'est très bien, mettre en place toute une morale qu'il ressentait à travers les évangiles et d'autres textes, mais je trouve qu'il excelle vraiment, vraiment dans ses œuvres littéraires, quoi. Alors, de cette fin du 19e, il y a un livre aussi qui a fait grande polémique, c'est « Qu'est-ce que l'art ?» Qu'est-ce que l'art ? Alors, « Qu'est-ce que l'art ?» Ça a bousculé les gens parce que Tolstoï va jusqu'à dire que la sonate de Beethoven n'est pas de l'art, quoi.
Alors, il la classe comment, alors ?
Ah, voilà. Mais il va dire que c'est pas des trucs géniaux, mais c'est Tolstoï. Il faut dire qu'il écrit cela après, au moment de la sonate à Kreutzer, où il est absolument jaloux, furieux que sa femme joue du piano avec Tanaïev. Donc il est un peu furieux contre l'art. Mais quand même, il dira des choses, par exemple que l'art, ça a été extrêmement étudié. Qu'est-ce que l'art de Tolstoï ? Il dit « L'art n'est ni plaisir ni divertissement et il n'est pas obligatoirement la recherche de l'esthétique. Il doit tendre vers la recherche du vrai. Une œuvre d'art doit nous entraîner à ressentir les émotions que l'auteur a éprouvées, dit-il. Les grandes œuvres d'art sont grandes parce qu'elles sont accessibles à tous et en tout temps. L'art n'est pas réservé à des spécialistes » ou à des groupes d'initiés. Tolstoï pense que l'art vrai ne peut trouver sa source que dans un esprit relié au divin. Et seulement ainsi, l'homme qui reçoit l'œuvre se trouve confondu avec l'artiste et uni aux autres hommes. Pour Tolstoï, l'art est principalement un moyen de rendre l'homme meilleur, l'humaniser en le reliant à ses semblables.
Oui, c'est une façon de voir l'art. Oui, là, il a un peu raison. C'est vrai qu'on a beaucoup tendance à réserver l'art à des spécialistes et à des groupes d'initiés, c'est vrai.
Si tu veux, voilà, les communistes arrivant au pouvoir, ils ont essayé de rendre l'art aussi, de saisir, prendre la balle au bond de Tolstoï, là, de rendre l'art accessible à tout le monde. Tolstoï se défendra, que dit que si l'art n'est accessible qu'à une élite, ce n'est pas de l'art. Voilà, bon. Sauf que
c'est, voilà, Tolstoï,
c'est Tolstoï qui dit ça, et je trouve que j'y souscris quelque part. Donc, on a déjà dit qu'il s'est démis à se démet à cette époque-là de tous ses biens au profit de sa femme et de ses enfants, et que sa femme s'inquiète, bien sûr, parce qu'elle veut comme éditer des œuvres de son mari pour continuer à qu'il y ait des revenus qui viennent, quoi. Et elle ira rencontrer, c'est intéressant, la veuve de Dostoïevski qui en fait autant. Et qui gère très très bien son business, quoi.
Elle part en stage chez...
Voilà, elle part en stage chez... Oui, oui, c'est très intéressant, et elles vont se rencontrer. Alors, c'est dans cette période que, on l'a dit la dernière fois, que Vladimir Grigorievitch Tcherkov, le redoutable personnage, redoutable et redouté Tcherkov par Sofia Andreïevna, parce qu'il rentre dans la vie de Tolstoï, et il rentre dans la famille de Tolstoï. C'est un prodigieux organisateur, et un farouche défenseur de la pensée tolstoïenne. Il sera même, certains disent, il sera même plus tolstoïen
que Tolstoï.
Que Tolstoï. Mmh. Mais bon, il a senti que Tolstoï devait être accessible universellement, dans tout l'univers, quoi. Donc il va faire tout ce qu'il peut pour que, on l'a dit, toutes ses œuvres soient accessibles à tout le monde. Donc il va par contre aider Tolstoï, bon, ils ont des secrétaires, ils ne sont pas tous les deux, hein. Il va aider Tolstoï à enseigner toute cette morale, le tolstoïsme, on peut dire. On est maintenant dans le tolstoïsme, il y a des communautés tolstoïennes qui se créent jusqu'en Afrique du Sud. On va voir que M. Gandhi va s'inspirer de tout cela. Et donc, il y en a en Russie pas mal. Tolstoï va voir ces communautés. Et donc pour répandre la morale de Tolstoï à travers des petites nouvelles, donc il y a le prisonnier du Caucase qui sont écrits là-dedans. Dieu voit la vérité, mais ne la dit pas vite. Par exemple, le Christ en visite chez un paysan. Tolstoï aime beaucoup d'écrire tout cela. Bon, Tolstoï n'y gagne rien du tout là-dedans. Hein. Pas un copec. Mais... avec l'aide de Tcherkov, ces petits livres sont vendus deux, pas gratuits complètement, mais deux ou cinq copecs. C'est pas grand-chose, hein. Donc, et ces livres vont contribuer à une popularité énorme de Tolstoï. Énorme. Et ils seront vendus, alors ce qui est intéressant, en 5 années, en Russie, à 20 millions d'exemplaires. Pas rien quand même, hein.
Et de là, il ne va pas en retirer grand-chose.
Non, non, mais bon, il a d'autres revenus quand même. On ne va pas s'inquiéter de... Non. Donc, on arrive à la fin de ses écrits. Bon, on n'arrive pas à la fin, mais on compte bientôt. Mais aussi, j'ai envie de dire que Tolstoï a écrit des pièces de théâtre qui sont jouées à Moscou, à l'étranger, telles que « La puissance des ténèbres »,« Le cadavre vivant »,« Les fruits de l'insurrection ». J'en ai pas d'autres qui me viennent en tête. Et c'est toujours des pièces très moralistes, en réalité, hein, qui mettent en relation les gens avec le quotidien. Donc, « La puissance des ténèbres », il dénonce les moujiks englués dans le péché. J'ai vu cette pièce à Paris à l'automne dernier. C'est très, très beau, joué par des artistes russes. Hein. Et donc... tout cela, ça fait son chemin, quoi. Hein, et il y a toujours ces gens qui passent, qui viennent voir Tolstoï, toutes sortes de gens. J'insiste là-dessus, excusez-moi, mais vraiment toutes sortes de gens, même secte une fois, des gens tout nus qui sont arrivés. Alors sa femme est complètement sidérée, quoi. Mais Tolstoï veut accueillir toutes sortes de gens, quoi. Hein. Toute espèce de des pèlerins qui passent, les fameux Mennonites, les Doukhobors, que pour citer ceux-là, quoi. Des gens qui ont tout quitté, des gens qui ont des cheveux longs, pouilleux. Tolstoï donne le gîte, donne des copecs, distribue. C'est un va-et-vient absolument infernal chez lui, quoi. Ben, avant de poursuivre, on va faire une petite pause avec une merveilleuse musique des chants traditionnels russes.
Oh,
ce chant traditionnel de l'ancienne Russie que j'aime beaucoup, chassant les flots de la Volga au-dessus des larges étendues. Le vent s'est levé, l'orage gronde. Donc les famines, Tolstoï a participé, a aidé à plusieurs famines. Vers les années 1870 et quelque chose, il y en a une très grande, mais celle de 1892-1893, qui sévit surtout au sud, vers dans la région de Samara, que, une région que Tolstoï aime beaucoup, on l'a déjà dit qu'il avait une grande ferme là. Et les gens meurent, quoi. Et c'est vraiment la désolation. Et Tolstoï, qui est engagé à fond dans ses œuvres sociales, humanistes, tout ça, ne peut plus vivre comme ça, rester sur son domaine. Et il faut absolument qu'il aille aider les gens, quoi. Et quand Tolstoï se met en marche, y a des gens qui suivent. Il y avait pas mal de gens qui ont suivi. Sa fille est allée l'aider. Et même sa femme, qui n'est pas toujours d'accord avec tout ce qu'il fait, mais là, quand même, elle est quand même une très bonne chrétienne orthodoxe et elle veut aussi, elle, aider tous ces pauvres qui meurent, quoi. Et Tolstoï va aller jusque vers Samara s'occuper de tous ces gens, quoi. Il va lui-même organiser des cantines, mais plusieurs... Je crois que c'était dans les 5-6 000 personnes à la fois qui faisaient des cantines, l'organisaient. Mais 7-8 000, je crois. C'est énorme. Et donc, pas tout seul, avec beaucoup d'autres personnes, quoi. Lui-même, il parcourt, il va rendre compte des besoins, il a son carnet, il prend des notes. Il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui meurent du choléra, de toutes sortes de maladies. Hein. Il a deux collaborateurs qu'il aimait beaucoup, qui sont morts. Mais il est resté plus d'une année. Un an ou deux dans cette région de Samara à s'occuper des gens qui meurent de faim, quoi. Et là, il va prendre les grands moyens, il va écrire, il va dénoncer toutes ces famines, les causes de ces famines. Il va faire venir sur la mer Noire, à part la mer Noire, un bateau ou deux bateaux, je ne m'en souviens plus, de riz, qui viennent des États-Unis. Tolstoï, à cette époque-là, il est en relation... avec les États-Unis, l'Europe entière et une partie du reste du monde. Hein, mais...
Et le tsar, lui, qu'est-ce qu'il en pense
de voilà.
Ça
Donc, le tsar est assez furieux. Là, ça chauffe sacrément aux oreilles de Tolstoï. Hein, parce qu'il est complètement surveillé. Parce que, évidemment, pour le tsar, pour les dirigeants de l'époque, comme sous Staline d'ailleurs, il n'y a pas de famine. Tout va bien. Non, les gens meurent parce qu'ils se soignent mal, parce qu'ils ne mangent pas bien. Enfin bon. Et là, Tolstoï fait des rapports. Il a écrit d'ailleurs un petit livre qui s'appelle « Sur la famine hein. ». Et là, il est sacrément surveillé. Mais c'est tellement vrai que, qu'est-ce que tu veux, on peut pas... Mais quand même, il est très, très sérieusement surveillé et on parle très fermement de faire enfermer Tolstoï dans la prison d'un monastère. Bon, c'est quand même une prison plus douce que le goulag ou la prison...
Ou la Sibérie.
Ou la Sibérie. Voilà, je pensais à la prison où DSK a été aussi, je crois. Voilà, donc le tsar est furieux, Nicolas II, nous sommes sous Nicolas II là maintenant. Pardon, non, je ne crois pas, parce que nous sommes en 1800, je pense que Nicolas...
On est en 1893.
Je crois que si mes souvenirs sont bons, Nicolas II est arrivé en 1895. Enfin, excusez-moi, je n'ai pas vérifié exactement, mais on peut vérifier. Je pense que donc si c'est ce 1892-93, on doit être encore sous Alexandre III. Peu importe. Voilà, donc, mais bon, rien n'arrête Tolstoï. Enfin, il n'est pas arrêté, il continue à s'occuper des gens et à secourir. Il va même jusqu'à acheter, il va mettre beaucoup d'argent de sa poche hein, pour acheter des semences, pour réensemencer. Alors, c'est vrai, Manu, tu me posais la question pourquoi il y avait des famines. Une bonne question. La sécheresse, des maladies, les animaux meurent. Je sais qu'il y a beaucoup d'animaux qui meurent. Hein. Certainement des sécheresses à cette époque-là, ça existe aussi. Hein. Voilà, donc, mais Tolstoï, je précise qu'il n'a pas fait que ce travail, cette famine. Il y en a eu d'autres aussi auxquels il a participé. Donc, à travers cela, il continue toujours à travailler sa fameuse non-résistance au mal. tous ces écrits dénonciateurs qui dénoncent la violence. Et Tolstoï, comme on le sait, reste dans les actions non violentes. Hein. Et c'est ça qui va faire surtout, ses écrits littéraires ont fait sa renommée, mais va asseoir vraiment dans le monde entier son immense renommée avec toute sa non-résistance au mal et surtout avec son roman « Le royaume des cieux est en vous » que Gandhi, jeune Gandhi, va lire. Alors, donc, à cette époque-là aussi, il y a cette fameuse secte, les Doukhobors. Les Doukhobors, c'est vraiment une secte qui intéresse vraiment, vraiment beaucoup Tolstoï. Mais ceci dit, il n'y a pas que cette secte que Tolstoï s'intéresse. Il y en a d'autres aussi. Hein. Mais les Doukhobors l'intéressent beaucoup. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui vivent tout simplement, qui ne veulent pas payer leurs impôts, parce qu'ils ne veulent pas participer ils veulent pas participer à la guerre, à l'armée, tout ça. Ils ne veulent pas faire l'armée. Et ils sont en marge de l'Église orthodoxe. Il faut savoir, Manu, c'est qu'ils sont un peu... Il y a eu beaucoup... Après, les vieux croyants, qu'est-ce que c'est que... les vieux, faut que j'en parle, parce que j'ai dit que j'en parlerai dans l'émission précédente. Les vieux croyants... ce sont des gens qui ont refusé la réforme introduite par le patriarche Nikon en 1653. Et donc, ils ne veulent pas, si tu veux, les vieux croyants ne veulent pas les nouvelles réformes de Nikon qui sont beaucoup plus en relation avec le pouvoir, avec les tsars. Et eux, ils veulent garder leur vieille tradition. Et ça... les Doukhobors font partie, sont un peu issus de ces mouvements des vieux croyants. Et ces Doukhobors, on les appelle les lutteurs de l'esprit. Alors eux, c'est sûr qu'ils sont révolutionnaires pour l'Église orthodoxe. Ils disent qu'ils prétendent que l'image du Christ, ce n'est pas là le sauveur, mais que c'est qu'une planche peinte. Alors évidemment, quand tu dis ça en pleine Russie, et Tolstoï approuve ça, il dit « Une église n'est pas faite de poutres, mais de côtes humaines ». D'autres le disent aussi. Mais bon, dire cela en 1800, fin du 19e, c'est quand même pas rien. Donc Tolstoï va s'intéresser énormément aux Doukhobors. Ils sont persécutés, ces gens. Ils sont persécutés, mais alors vraiment, toutes ces sectes, les Ménonites et d'autres, et beaucoup d'autres. J'ai déjà dit, il y avait plus de 10 000 sectes recensées avant la révolution d'octobre 17. Et donc, ils vont. Tolstoï, j'ai seulement dû en parler, excusez-moi. Peut-être pas. Et Tolstoï va faire tout ce qu'il peut pour les faire sortir de prison, des camps, et les faire immigrer jusqu'au Canada. Et là, c'est là qu'il va obtenir gain de cause. Le tsar va accepter que les citoyens russes partent jusqu'au Canada. Et donc, ça ne va pas être évident avec quel argent. Parce que ce n'est pas le tsar qui va les... Mais quand même, beaucoup s'indignent de voir toutes ces forces vives. C'est des pionniers, des gens qui en veulent, quoi. Hein, avec leur conviction d'authenticité, d'honnêteté, quoi. Hein. Et Tolstoï va avoir cette magique idée. Il va écrire son dernier et très grand roman qui s'appelle « Résurrection ». C'est le troisième grand roman de Tolstoï. Et... pourquoi Tolstoï écrit-il ce dernier et grand roman ? Premièrement, il va se servir de... Il va dire que tout le bénéfice de ce roman va servir pour l'émigration des Doukhobors au Canada. Et il va y avoir effectivement un immense succès dans tout ce grand roman. Parce que il va en profiter pour... alors là, il va mettre le paquet, parce qu'il est il est édité en 1899. Là, Tolstoï est au fait de sa gloire et de sa force de frappe, de contestation à tous les niveaux. Et Résurrection, c'est une sacrée contestation de l'ordre établi. Alors, hein. Puis des tribunaux, les tribunaux qui envoient en Sibérie des gens pour n'avoir rien fait, en prison. L'Église, elle en prend un sacré coup, quoi. Il va démystifier tous les rituels de l'Église, sans pour cela, comme je viens de le dire, il rejette bien le contraire. Au contraire, il veut rester au cœur du message christique. et bien sûr l'armée qui déporte par milliers toutes ces personnes. Et Résurrection, évidemment, aura un retentissant succès, mais à la fin de Résurrection, Tolstoï est excommunié, parce que là, il avait poussé le bouchon un peu loin.
L'Église s'occupe de lui. Et c'est vrai, il n'a jamais vraiment, vraiment été plus embêté que ça. Quoi. Il n'a jamais... Est-ce qu'il a fait des journées de prison ou pas ?
Jamais.
Jamais.
Jamais. Tolstoï a été une fois, une journée en prison, mais c'est quand il était étudiant, ça on n'en parle pas, une journée, c'est pour ça qu'il a arrêté les études. Mais il n'a jamais fait de prison, et beaucoup de gens se demandent comment ce personnage, avec tout ce qu'il a dit...
A pu échapper à la Sibérie.
Oui, a pu échapper à la Sibérie. Ça a été à deux doigts, mais il ne s'est jamais retenu. Mais il avait une force, il avait des relations, des contacts dans le monde entier. Il était trop connu, on ne pouvait plus. Si tu veux, à la fin de sa vie, Tolstoï ne s'appartenait plus. On ne pouvait pas mettre Tolstoï en prison. Je l'ai déjà dit une fois, je crois. Un chef de prison avait dit, mais... vous êtes Tolstoï, mais vous êtes beau. Il s'était présenté pour qu'on l'enferme une fois. Parce qu'il y avait un de ses éditeurs qui était en prison. Puis il dit, c'est pas mon éditeur qui doit y aller, c'est moi. Je vous supplie de m'enfermer. Et le responsable de la prison lui avait dit, mais Tolstoï, vous êtes beaucoup trop grand pour cette petite cellule. Enfin, voilà, donc il a été inquiété, suivi, oui. Fouillé, perquisitionné, comme je l'ai dit, censuré, ça, mais sans arrêt, mais il a toujours dévié la situation et il a, oui.
Censuré, ça veut dire qu'il y a des écrits de Tolstoï qui ne sont qui ne sont jamais parus.
Aujourd'hui, si. Mais aujourd'hui, du temps
à l'époque,
oui, d'accord. bien sûr, ils étaient Résurrection, ben beaucoup de romans étaient, il y avait des parties censurées. Donc, il partait se faire éditer en Angleterre, ou en France, ou en Amérique, ou en Suisse. Hein. Alors, au mieux, il revenait...
Mais du coup, ses livres étaient vendus sous le manteau, puisqu'ils n'étaient pas édités...
Mais en Russie, oui, mais pas en Angleterre, en Amérique et ailleurs, quoi. Oui. Et donc, et après, ben, une fois sa mort, après sa mort, et même dans les années plus tard, parce qu'il y a des livres qui sont juste là, 2010, lors de sa... l'anniversaire de ses 100 ans de mort, il y a des livres qui ont été juste réédités à ce moment-là, quoi. Donc, il s'est battu, bah, évidemment, Tcherkov, le grand disciple, le puissant disciple, veillait au grain. Alors, comme je l'ai dit, Résurrection, alors on pourrait décrire les Doukhobors qui partent au Canada, c'est extrêmement intéressant parce que le fils de Tolstoï va les accompagner jusque là-bas. Ça va comme 8000 personnes ont atterri au Canada.
Hein. Les Doukhobors, 8000.
8000 personnes sont arrivées là-bas. Donc, ils existent toujours. J'ai un ami récemment qui est allé au Canada faire une émission sur les Mennonites. Mais les Mennonites, c'est les cousins germains des Doukhobors. Ils vivent encore avec des chevaux, tu vois, c'est des 68 ans qui sont restés comme ça. Ils vivent avec des chevaux, ils ont des très belles calèches, ils se déplacent, ils n'ont pas de voiture. Donc ils ont gardé cet esprit authentique que leurs ancêtres avaient, quoi. Et je trouve ça fantastique, des gens comme ça. Si vous allez sur des sites, vous tapez les Doukhobors ou les Mennonites au Canada... On trouve des très belles images des gens qui vivent encore d'une façon assez authentique, quoi. Alors, pour illustrer ces prisonniers, parce que Tolstoï a été dans Résurrection, il a été complètement... il y a un personnage, Nekhludov, qui est Tolstoï, bien sûr, et puis Maslova, qui a fauté, que Tolstoï veut sauver... Mais en réalité, cette femme à Slova, il l'avait séduite, Tolstoï plutôt, quoi. Et il se retrouve dans les jurés au tribunal, et puis elle, accusée. Tolstoï a un remords énorme, et il veut sauver cette femme, quoi. Il veut sauver cette femme, elle est condamnée à partir en Sibérie, dans le roman. Et donc, il veut se marier avec elle, il veut la sauver, et je trouve que c'est un roman très très fort. Il y a des gens qui disaient que Tolstoï était rendu au bout, son génie n'était plus productif, mais là j'en pense que non, il a fait vraiment un véritable chef-d'œuvre. Bon, des choses comme ça, comme Maslova qui lui répond quand Tolstoï lui dit qu'il veut se marier avec elle pour la sauver, quoi. Il est le prince Nekhludov, hein. Et elle lui dit en clair comme ça, tu t'es servi de moi une fois pour tes désirs, pour tes désirs, sur tes désirs, tu ne te serviras pas une deuxième fois de moi pour te sauver, sauver ta conscience. Je trouve ça magnifique, magnifique. Et là, j'ai choisi une très très belle musique, Boris Christophe. C'est un chanteur d'opéra, de basse, et qui est absolument magnifique, a une voix de basse magnifique, et qui est devenu très très célèbre dans le XXe siècle. Et justement là, il va vous chanter Les prisonniers sibériens qui partent en Sibérie, par Boris Christophe.
Sibérien par Boris Christophe. On revient à l'excommunication de Tolstoï. Ça n'a pas dû être une mince affaire, cette histoire, parce que excommunier Tolstoï, lui, comment il l'a pris?
Ah ben lui, il s'en fichait complètement. D'accord. Sa femme, pas du tout, bien évidemment, parce qu'elle était restée quand même très orthodoxe, très croyante, très pratiquante, dans le sens traditionnel de la Russie. Et lui, Tolstoï, les gens pensaient que ça allait le démolir d'être excommunié, mais ils savaient bien que ça allait... Il y a un bout de temps que l'Église n'en pouvait plus de cet antéchrist, comme ils disent. Mais là, lui, pour Tolstoï, ça ne lui pose aucun problème. Il n'a pas répondu. Bon, aucun problème. Oui, aucun problème, mais quand même, c'est pas tous les jours qu'on excommunie un aristocrate, un personnage de cette importance. Fin 1901, il a été excommunié. Donc, la résurrection est sortie en 1899, et il a été excommunié en 1901. Donc, il s'est expliqué quelque temps, un mois ou deux après, je crois, qu'il a écrit, mais il fallait voir les jeunes étudiants à Moscou qui manifestaient dans la rue pour soutenir Tolstoï. Il y avait une effervescence. Toutes les autorités religieuses de l'époque pensant parce qu'ils avaient peur de lui. Ils pensaient qu'il avait des adeptes, il y avait des gens qui s'intéressaient à la vie de toutes ces communautés-là. Quand je te parlais du Cobor, les Ménonites et puis plein d'autres, il était presque leur porte-voix, leur porte-parole. Donc l'Église orthodoxe commençait à drôlement s'inquiéter, quoi. Donc, ils ont fait publier, je ne l'ai pas ici, j'aurais pu vous le lire, mais bon, on peut le lire dans d'autres livres, le texte d'excommunication de Tolstoï, qui a été affiché dans toutes les églises de la Russie, comme l'antéchrist, ne suivait pas ce faux Christ et tout ce qui s'ensuit, quoi. Donc, ça a fait... sa femme était quand même choquée qu'on excommunie son mari. Mais, si tu veux, ça a fait... le contraire, les autorités religieuses ont reçu tout le contraire de ce qu'ils avaient prévu. Une renommée, mais gigantesque, de Tolstoï supplémentaire, quoi. Des lettres de soutien, des lettres qui arrivaient... faut pas oublier qu'il y avait 2-3 facteurs qui apportaient des lettres par jour à Yasnaya Paliana. Hein. Donc voilà, l'excommunication, on en a parlé le jour de sa mort. On sait que, en première émission, on l'a dit, que des autorités religieuses sont venues pour essayer de le faire revenir dans le sein de l'Église, quoi. Mais Tolstoï n'a pas bronché d'un iota pour changer ses idées. Pour lui, il y avait le message, la vérité qui devait être direct. Le Christ avait dit des choses, ou Bouddha, ou toutes les religions qu'il avait étudiées avaient dit quelque chose de vrai, de profond, et on devait accéder directement à cela sans déformation, quoi. Voilà ce qu'on peut dire sur l'excommunication de Tolstoï. Mais dans cette époque, bien qu'on va en parler un peu plus dans la dernière émission, le mois prochain, il y a un personnage qui va devenir très important dans le monde, qui lit Tolstoï déjà, qui lit ses œuvres littéraires, mais qui vient, il a une trentaine d'années, il vient de lire Le royaume des cieux est en vous. C'est Monsieur Gandhi. Monsieur Gandhi, qui est un jeune avocat, qui a une trentaine d'années, qui est... Je pense que je ne dis pas de bêtises, mais je crois qu'il est en Afrique du Sud déjà, hein. Ils sont en Afrique du Sud déjà pour aider les gens à se libérer de l'emprise de l'Angleterre, quoi. Il a déjà construit plus de 500 hectares, une ferme communautaire pour accueillir tous les exilés, les rejetés du système et ceux qui sont que les Anglais exploitent et tout, quoi. Donc une ferme qui s'appelle la ferme Léon Tolstoï. Donc il connaît Tolstoï, hein. Il a écrit, il a lu Tolstoï, mais Le royaume des cieux est en vous, ça fait tilt à Gandhi, quoi. Il a dit, voilà, c'est vraiment ça, la rencontre de l'hindouisme et du christianisme authentique. Et c'est avec ce livre que Gandhi a continué à réfléchir et à instituer, j'aime pas beaucoup ce mot, mais développer la non-violence. Qu'il a appris de Tolstoï. Mais on en parlera un peu plus avant, profondément, dans la dernière émission. Ce que je voulais dire, le temps tourne, c'est que cette fin du 19e siècle aussi, en France, on est dans... avec, par exemple, voilà, j'ai envie de vous parler un petit peu de Romain Rolland, l'écrivain français. Romain Rolland est un écrivain que tout le monde connaît, mais un homme qui a... pendant la Première Guerre mondiale, qui a écrit « Au-dessus la mêlée » et qui a écrit son Jean-Christophe. C'est le guerre épais de Romain Rolland, ça, Jean-Christophe. Il a écrit « Au-dessus la mêlée » parce que c'était un humaniste, Romain Rolland, et il n'a jamais voulu prendre parti, soit pour les Allemands ou pour les Français. Il parlait parfaitement l'allemand. Et donc, il s'est réfugié en Suisse, comme on le sait. Mais ce que je veux dire, surtout, c'est que Romain Rolland a 18-20 ans et il rencontre Tolstoï. Enfin, il rencontre les écrits de Tolstoï. Il rencontre Guerre et Paix, bien évidemment. Alors, c'est étonnant, c'est qu'il a commencé par connaître Tolstoï par la mort d'Ivan Illich. Et quand j'habitais dans la Nièvre, où j'étais fermier, j'habitais tout à côté de Clamecy, là où est né, où a grandi Romain Rolland. Et j'ai trouvé ça très intéressant, parce que je m'intéressais beaucoup à Tolstoï, et j'ai vu que Romain Rolland avait découvert Tolstoï par La mort d'Ivan Illich, qui a été mon premier livre de lecture de Tolstoï. Et donc, Romain Rolland est tellement passionné. Romain Rolland, on le sait, est un excellent musicien. Les Beethoveniens en France vont lire Romain Rolland pour comprendre Beethoven. Et c'est évidemment un écrivain qui est mal connu, je trouve. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que Romain Rolland écrira à Tolstoï. C'est pas rien, le jeune étudiant de 20 ans, il est à Paris. Il faut savoir qu'à cette époque-là, la jeunesse cultivée avait besoin, Manu, d'un espoir, d'une autre façon de voir la vie. Il y avait eu la guerre 1870, on sentait, il y avait une lourdeur, tout le monde dit qu'il y avait une lourdeur dans l'atmosphère. Guerre 14 arrivait quand même, c'est pas rien, hein. Il y avait des... Donc tous ces jeunes humanistes, il y en a d'autres, j'ai peur de me tromper, j'ose pas trop en citer, mais tous les gens avec Romain Rolland cherchaient et ont trouvé chez Tolstoï une ouverture, mais alors une nourriture à leurs désirs, à leurs ambitions de vérité, de vie intérieure de l'air, quoi. Ils ont trouvé de l'air, quoi. Et donc, on buvait, on lisait Tolstoï toutes les nuits, là, toute cette jeunesse parisienne, en Allemagne aussi, certainement. Parce que Stefan Zweig était un passionné de Tolstoï aussi, hein, l'ami de Romain Rolland. Et donc, Romain Rolland écrit à Tolstoï. Pourquoi ? Parce que, pour le remercier déjà, il l'appelle mon frère. C'est pas rien, quand même. Un petit étudiant de 20 ans, 22 ans, appelle Tolstoï mon frère. Et il est complètement, Romain Rolland, complètement bouleversé de voir son idole, si on peut dire, de Guerre et Paix, d'Anna Karénine, qui vient d'écrire « Qu'est-ce que l'art ?» Parce que « Qu'est-ce que l'art ?» c'est une sacrée critique de l'art, soi-disant, pour les...
On a eu un extrait tout à l'heure.
Voilà, d'accord. Donc, il est complètement fou quand Romain Rolland, qui est un pianiste, qui est un très bon pianiste, pas un très bon pianiste à 20 ans, mais si, qui joue bien du piano, passionné de Beethoven, de voir son génie littéraire, son maître à penser, si tu veux, critiquer l'art, quoi, comme cela. Et Tolstoï va écrire.
Encore.
Il va écrire.
Il n'est pas fini, alors.
Oui. Et là, Tolstoï va lui répondre d'une lettre de 20 pages. Et donc, ça fait archive, quoi. Bien sûr, cette lettre est accessible ceux qui veulent la lire. Donc, Romain Rolland a été très, très ému de recevoir une lettre de 20 pages de Tolstoï. C'est quand même pas rien, quoi. Donc, ce que je veux dire, oui, c'est un homme comme Stefan Zweig a été extrêmement influencé par Tolstoï. Il a écrit une merveilleuse biographie sur Tolstoï. Et ceux qui connaissent l'écrivain roumain Panait Istrati aussi a été... il y en a des tonnes. Plus tard, évidemment, Jean Jaurès a beaucoup apprécié Tolstoï. Et en 1911, il n'était pas mort, pas assassiné encore, bien sûr, il a fait, Jean Jaurès, en 1911, un vibrant discours à Toulouse, un an après, en honneur de Tolstoï, quoi, à Toulouse. Voilà, donc, alors après, plus tard, il y a Gorki, le russe Gorki, qui va être très très intéressé par Tolstoï, qui va venir le voir énormément, quoi.
Il va aussi influencer, ou du moins intéresser aussi pas mal d'autres personnes.
Oui.
Je vois que tu parles de Martin Luther King ou de Nelson Mandela, c'est vrai que...
Bien sûr que Tolstoï a influencé par le biais de Gandhi, parce que tous ces gens-là savent que Gandhi a été... Tolstoï n'appelait pas ça la non-violence, il appelait la non-résistance au mal. Mais il faudra que pour la dernière émission, que je vous trouve... Tiens, c'est une bonne idée ça, Manu, c'est une bonne idée. Que je trouve, que je fasse, que je vous lise des extraits des... des lettres, des échanges de courriers que Gandhi et Tolstoï ont eu ensemble et où on parle de tout cela, quoi. Bien sûr que des gens comme Martin Luther King, Nelson Mandela se sont inspirés de Tolstoï et de Gandhi, quoi. Alors, on arrive bientôt à la fin de cette 9e émission et puis on a tellement de choses à dire qu'il faut faire des choix, quoi.
Choisis.
Il faut faire des choix. Alors, j'ai envie de vous lire ce que j'ai écrit. Voilà, ce que je pense à la fin de cette émission.
Alors, on te laisse la parole.
Oui, voilà, c'est ma petite réflexion, elle est ce qu'elle est. Mais voilà, c'est comme ça que je vois la chose. Oui, parce que on est quand même dans un monde qu'on peut pas dire très juste, quand même. On est là quand même, si on fait ces émissions, c'est aussi pour donner de l'espoir, pour dénoncer, pour encourager, pour qu'on s'encourage les uns les autres à aller vers plus d'humain, de fraternité, de liberté, quoi. Et donc, moi je trouve que toute cette injustice, cette exclusion qu'on voudrait nous faire croire, comme une grippe, comme si c'était inévitable, hein, comme quelque chose de contagieux, comme si c'était une maladie incurable. Il y a des politiciens français qui parlent que les rémis, c'est le cancer de la société. Donc, tu vois, on est bien dans ce système, quoi, là, hein, à culpabiliser l'autre tout le temps, quoi. Hein. Alors que, oui, mais alors, d'où est l'origine de cette exclusion, de cette pauvreté? C'est quand même, c'est pas une fatalité. C'est pas comme une grippe, c'est pas une fatalité pour moi, si tu veux, Manu. Mais pour moi, c'est quand même, c'est pas que pour moi, mais en tout cas, c'est comme je le vois, c'est le résultat de nos rapports humains sur la planète. C'est bien la façon dont l'homme
se comporte
qu'il y a autant d'exclusion, de guerre, de souffrance. Donc, je dis que cette injustice, cette exclusion, non. Elle n'est pas, c'est pas une fatalité, c'est faux, ce n'est pas une fatalité. Et alors, je trouve ça très étrange, moi, que l'on nomme de réalistes certains chefs politiques ou religieux ou des chefs de guerre militaires ou économiques. Ils sont très réalistes, hein, et qui, de toute évidence, la plupart, je ne dis pas tous, mais beaucoup, on le voit aujourd'hui ce qui se passe, hein, entraîne des masses d'hommes droit au mur et ils prônent la violence, en prônant la violence comme mode de conquête de leur convoitise. C'est évident.
Mais l'homme a fait ça depuis très, très, très longtemps.
Ah ben depuis très longtemps, l'homme a fait cela, mais avec les moyens modernes dont il dispose...
Ça va plus vite.
Ça va plus vite, hein. Ça va plus vite de tuer 100 000 personnes, puis sur un bouton, c'est fini, pouf, quoi. Hein. Pouf, c'est fini, alors. Alors... je trouve ça fantastique. Là, ce sont des gens réalistes, là, qui font la guerre, qui font la politique. Ils sont réalistes. Et alors, par contre, des gens comme Tolstoï, qui déploient de toute leur être, il y en a d'autres, on parle de Tolstoï, qui déploient toutes leurs idées, leur sensibilité devant la vie. On dit que ce sont des idéalistes. Ils ont des idées impraticables, utopistes. Eux, c'est des utopistes, des irréalistes. Mais quand même, il y a vraiment si peu de gens qui veulent entendre ça et de vouloir écouter des gens qui disent tout haut que l'homme est une histoire sacrée. Oui, j'aime beaucoup cette expression que j'ai entendue un jour. Chaque homme, tout homme, est une histoire sacrée. Qui c'est qui dit ça ? peut-être certains le disent, oui. Mais on devrait bien le dire tous les matins à la radio, à la télé et dans la presse.
Si tu veux.
Hein, on peut le dire. Que tout homme est une histoire sacrée. Que seul, c'est des grands mots qui font peur. L'amour, le respect de son prochain, le respect de la vie est la seule solution à un équilibre viable sur cette terre entre les hommes. Mais alors, ceux qui disent cela, Manu, attention, ce ne sont surtout pas des réalistes, ce ne sont même pas des idéalistes. Mais très souvent, on les traite de fous.
Oui, sauf qu'il n'y a pas que les fous. Il n'y a pas que ces fous-là qui disent ça. Il y en a qui le disent et qui font totalement l'inverse. Même en parlant de ça, quoi.
Bien sûr.
Il y en a qui disent qu'ils sont en train de préparer un monde viable pour que, entre la Terre et l'homme, mais ils font totalement l'opposé et nous envoient contre le mur, comme tu l'as dit tout à l'heure.
Contre le mur. Alors moi je trouve, pour terminer cette 9e émission, je trouve que des gens, on a besoin, certaines de personnes, des amis me disent, mais comment ça se fait qu'on n'a pas, on n'entend pas des voix comme Tolstoï aujourd'hui pour dénoncer, parler haut et fort ce qui ne va pas. Mais alors il y a d'autres qui disent, mais parler comme ça, même dans nos sociétés démocratiques, ils seraient peut-être presque mis en prison. Est-ce qu'ils pourraient dénoncer comme ils dénonçaient les choses au fin 19e siècle, aujourd'hui, avec toute cette société uniformisée où il y a le prêt-à-penser, parce que c'est quand même le prêt-à-penser qui domine. Malheureusement, la plupart de nous, êtres humains sur la Terre, voulons du prêt-à-penser. Surtout pas penser par nous-mêmes, c'est trop fatigant. Bon, bref, donc tant que l'homme voudra du prêt-à-penser, là, c'est certain que nous aurons là une pensée conditionnée et préfabriquée. Nous arrivons à la fin de cette 9e émission et j'ai choisi pour clore cette émission encore un chant traditionnel de la vieille Russie, et ça se passe sur le lac Baïkal. Vous savez que le lac Baïkal, c'est dans la Sibérie, et cette chanson parle, pour finir, d'une mer splendide, du lac sacré.
À bientôt, Claude.
Au revoir.